Marcher vers le bien-être avec Denis Chagnon.
Chers amis, bonjour et bienvenue à Marcher vers le bien-être. J'espère que vous vous portez bien. Je m'appelle Denis Chagnon et je vous propose aujourd'hui trois thèmes que nous n'avons pas encore abordés comme tels à ce jour, soit le sens de la marche, le nomadisme et la femme et la marche. Nous le ferons en compagnie de grands marcheurs et marcheuses d'hier et d'aujourd'hui qui nous livrent leurs pensées grâce à un magnifique numéro hors série de la revue Philosophie Magazine paru en 2017. Je remercie d'ailleurs deux de nos collaborateurs de l'an dernier, Marie-Lyne Étier et Michel Dégagné de Santé à pied, de m'avoir permis de le parcourir pour vous. Au cours de la prochaine heure, donc, je vous ferai la lecture de textes de l'incontournable Henry David Thoreau, de grands nomades du XXe siècle comme Jacques Lacarrière et Isabelle Eberhard, de deux femmes qui nous sensibilisent à leur réalité, Rebecca Solnit et Nancy Houston, et en prime quelques surprises, le tout agrémenté de la flûte magique de James Galway. Nous débutons notre promenade virtuelle en compagnie de Ralph Waldo Emerson, philosophe et poète américain, né à Boston en 1803. Pour Emerson, l'homme doit veiller à être présent au monde et pour cela renouer avec la nature sauvage. Seul sous les étoiles, il s'élève de sa condition et retrouve le lien avec Dieu, la nature comme expérience initiatique et comme une fontaine de jouvence. Je le cite. « Dans les bois se trouve la jeunesse éternelle. Parmi ces plantations de Dieu règne la grandeur et le sacré. Une fête éternelle est apprêtée, et l'invité ne voit pas comment il pourrait s'en laisser un millier d'années. Dans les bois, nous revenons à la raison et à la foi. Je sens que rien ne peut m'arriver dans la vie ni disgrâce, ni calamité, que la nature ne puisse réparer. Debout sur le sol nu, la tête baignée par l'air joyeux et soulevée dans l'espace infini, tous nos petits égoïsmes s'évanouissent. Je deviens une pupille transparente. Je ne suis rien. Je vois tout. Les courants de l'être universel circulent à travers moi. Je suis une partie ou une parcelle de Dieu. » Le nom de l'ami le plus cher sonne alors comme étranger et fortuit. Être frère ou ami, maître ou serviteur apparaît comme un embarras et un détail sans valeur. Je suis l'amant de la beauté immortelle et sans entrave. Dans la nature sauvage, je trouve quelque chose de plus cher et de plus primordial que dans les rues ou les villages. À travers la tranquillité du paysage, et spécialement sur la ligne lointaine de l'horizon, l'homme contemple quelque chose d'aussi magnifique que sa propre nature. Le plus grand plaisir que procurent les champs et les bois est la secrète relation qu'ils suggèrent entre l'homme et les végétaux. Je ne suis pas seul et inconnu. Ils me font signe, et moi de même. Le balancement des branches dans la tempête est nouveau pour moi et ancien. Cela me prend par surprise et pourtant ne m'est pas inconnu. Ces effets sont semblables aux sentiments qui me submergent d'une pensée plus haute ou d'un sentiment meilleur lorsque j'estime que j'ai bien agi ou pensé avec justesse. Notre prochain compagnon de route est Henry David Thoreau, né lui aussi en 1817 au Massachusetts. Plus jeune qu'Emerson, il fut néanmoins son maître à penser à certains égards. Lors de sa retraite près de l'étang de Walden, de 1844 à 1847, Thoreau marche plusieurs heures par jour dans la nature sauvage avec un émerveillement toujours renouvelé. Dans son petit traité intitulé « De la marche », l'auteur de « Walden ou la vie dans les bois » invite à s'enivrer de l'air qu'on respire, loin des jardins clos et des sentiers battus. Et je le cite. Je n'ai rencontré qu'une ou deux personnes au cours de mon existence qui aient compris l'art de la marche, à savoir celui d'aller se promener, qui est le don, pour ainsi dire, du sauntering, ce terme qui est si joliment dérivé de ces personnes désœuvrées qui vagabondaient de par le pays au Moyen Âge et demandaient la charité sous le prétexte qu'elles se rendaient à la Sainte Terre. Tant et si bien que les enfants s'exclamaient « Voici un saint terreur, un saunterer, un pèlerin en partance pour la Terre Sainte. » Tous ceux dont les errances ne les menaient jamais à la Terre Sainte, et comme ils le prétendaient d'ailleurs, ne sont à la vérité que de simples vagabonds oisifs. Mais ceux qui s'y rendent sont des promeneurs au bon sens du terme, tel que je l'entends. D'aucuns, cependant, font dériver le mot « sans terre » qui, partant, signifierait « sans foyer particulier » tout autant que « partout chez soi ». Car tel est le secret d'une promenade réussie. Celui qui demeure assis dans une maison tout le temps peut bien être le plus grand des cheminots, mais l'authentique promeneur n'est pas plus vagabond que la rivière sinueuse qui ne cesse de chercher opiniâtrement le plus court chemin jusqu'à la mer. Mais je préfère le premier sens du terme, car chaque marche est une sorte de croisade pour aller reconquérir cette terre sainte qui est tombée aux mains des infidèles. Même les marcheurs d'aujourd'hui. C'est vrai, nous ne sommes que des croisés au cœur défaillant, qui ne se lancent jamais dans la moindre entreprise de longue haleine exigeant quelque persévérance. Nos expéditions ne sont que de simples périples qui nous ramènent le soir auprès de l'âtre où nous étions partis. La moitié de la promenade consiste à revenir sur nos pas. Nous devrions entreprendre chaque balade, sans doute, dans un esprit d'aventure éternelle, sans retour, prêt à ne renvoyer que nos cœurs embaumés, comme des reliques de nos royaumes désolés. Si vous êtes prêt à abandonner père et mère, frères et sœurs, femmes, enfants et amis, et à ne jamais les revoir, si vous avez payé toutes vos dettes, rédigé votre testament, réglé toutes vos affaires, et êtes un homme libre, alors vous êtes prêt pour aller marcher. La description de la marche de taureau, soit cette idée de sans retour, met la table pour la prochaine étape de notre randonnée, soit le nomadisme. Pour nous en parler, celui que l'on a nommé le nomade prophète, Jacques Lacarrière, écrivain, poète et traducteur français, né en 1925. En 1971, Jacques Lacarrière traverse la France à pied, soit 1000 kilomètres. Endossant la défroque de l'errant, à la fois désiré et redouté à travers les âges, quand les voies amenaient le frère ou l'ennemi, il appelle à revivifier le nomadisme. Et je le cite. Le monde de l'errance n'est jamais mort, ni en nous, ni autour de nous. Qu'il ait ou non un but et des repères précis dans les pèlerinages ou les déplacements des compagnons ou des repères imprécis, chez les missionnaires, les frères prêcheurs, les métis ambulants d'autrefois, il n'a cessé au cours des siècles de fasciner ou d'horrifier, d'inspirer la crainte ou l'admiration. L'histoire fondamentale des rapports très complexes entretenus entre les sédentaires et les nomades, cette histoire reste encore à faire. On l'a entreprise pour des époques ou des lieux limités, mais jamais dans une perspective d'ensemble qui en dégagerait les axes, les courants, les jalons. Car tour à tour chassé, repoussé, excommunié ou au contraire fêté, recherché, imploré, l'errant apportait avec lui, selon les mentalités, les besoins des différentes communautés, un monde de damnation ou un monde de salut. Les routes, les chemins, les sentiers parcourant la France ont ouvert les portes de l'enfer ou celles du paradis. Ils furent sur notre terre comme les infrastructures de l'amour ou de la haine, les voies qui amenaient le frère ou l'ennemi. Et aujourd'hui, rien de cela n'est mort. Notre société hyper-urbanisée semble consacrer à jamais la victoire des sédentaires. Elle recèle pourtant plus que jamais ces ferments qui nous portent à bouger, à partir, à nous jeter avec fureur vers les loisirs, organisés ou non. Peu importe les motivations, on ne part pas sur les routes pour prêcher ni faire son salut, pour conquérir quelque graal au cœur des châteaux forts. Mais l'image, n'est-ce pas, n'est pas morte. Les paradis promis et trouvés par le départ et par l'errance. Cette quête fiévreuse du loisir, le Graal de notre époque, a pris fatalement des formes organisées et moins chevaleresques qu'autrefois, des formes saisonnières aussi retrouvant par moments l'ampleur des vieilles migrations. C'est pourquoi on accepte très bien les vacanciers, les campeurs, voire les randonneurs. Moins bien le vagabond, le solitaire marchant pour son plaisir en dehors des sentiers battus. Le plus révélateur pour moi dans ce voyage de quelques mois en France fut justement l'étonnement, l'incertitude et surtout la méfiance que je lisais sur mes visages. Affronter l'imprévu quotidien des rencontres, c'est rechercher une autre image de soi chez les autres, briser les cadres et les routines des mondes familiers, se faire autre et, d'une certaine façon, renaître. La lassitude, le découragement, le sentiment d'absurdité ou d'inutilité qui vous prennent quelquefois aux heures difficiles ou mornes de la marche deviennent autant d'épreuves qui n'ont d'ailleurs rien de tragique. De plus en plus, ceux qui réclament autre chose que le visage artificiel des villes, les rapports routiniers, conventionnels de nos cités, et rechercher sur les routes ce qui leur manque ailleurs. Je me dis qu'en marchant ainsi, on ne recherche pas que les joies archaïques ou des heures privilégiées. On ne fait pas qu'errer dans le labyrinthe des chemins embrouillés qui nous ramèneraient à nous-mêmes, mais qu'au contraire, on découvre les autres et, avec eux, cette Ariane invisible qui vous attend au terme du chemin. Marcher ainsi de nos jours, et surtout de nos jours, ce n'est pas revenir au temps néolithique, mais bien plutôt être prophète.
Thank you.
Une femme aussi a incarné cette notion de nomade quelques années même avant la carrière. Isabelle Eberhardt, écrivaine suisse née en 1877, fuit l'Europe à 20 ans, se convertit à l'islam et part vivre dans le Sahara. Dans ses récits, elle fait l'éloge du sans-domicile fixe, parfois très dur à l'endroit de la société contemporaine. Et je la cite. « Un droit que bien peu d'intellectuels se soucient de revendiquer, c'est le droit à l'errance, au vagabondage. Et pourtant, le vagabondage, c'est l'affranchissement et la vie le long des routes, c'est la liberté. » Rompre un jour bravement toutes les entraves dont la vie moderne et la faiblesse de votre cœur, sous prétexte de liberté, ont chargé notre geste, s'armer du bâton et de la besace symbolique et s'en aller. Pour qui connaît la valeur et aussi la délectable saveur de la solitaire liberté, car on n'est libre que quand on est seul, l'acte de s'en aller est le plus courageux et le plus beau. Égoïste bonheur peut-être. Mais c'est le bonheur pour qui sait le goûter. Être seul, être pauvre de besoin, être ignoré, étranger et chez soi partout, marcher solitaire et grand à la conquête du monde. Le cheminot solide assis sur le bord de la route et qui contemple l'horizon libre, ouvert devant lui, n'est-il pas le maître absolu des terres, des eaux et même des cieux? Quel châtelain peut rivaliser avec lui en puissance et en opulence? Son fief n'a pas de limite et son empire pas de loi. Aucun servage n'avilit son allure. Aucun labeur ne courbe son échine vers la terre qu'il possède et qui se donne à lui, toute, en beauté et en beauté. Le paria dans notre société moderne, c'est le nomade, le vagabond, sans domicile ni résidence connue. En ajoutant ces quelques mots au nom d'un irrégulier quelconque, les hommes d'ordre et de loi croient le flétrir à jamais. Avoir un domicile, une famille, une propriété ou une fonction publique, des moyens d'existence définis, être enfin un rouage appréciable de la machine sociale, autant de choses qui semblent nécessaires, indispensables, presque à l'immense majorité des hommes, même aux intellectuels, même à ceux qui se croient le plus affranchis. Cependant, tout cela n'est que la forme variée de l'esclavage auquel nous astreint le contact avec nos semblables, surtout un contact réglé et continuel. J'ai toujours écouté avec admiration, sans envie, les récits de braves gens ayant vécu des 20 et 30 ans dans le même quartier, voire dans la même maison, qui n'ont jamais quitté leur ville natale. Ne pas éprouver le torturant besoin de savoir et de voir ce qu'il y a là-bas, au-delà de la mystérieuse muraille bleue de l'horizon. Ne pas sentir l'oppression déprimante de la monotonie des décors. Regarder la route qui s'en va toute blanche vers les lointains inconnus, sans ressentir l'impérieux besoin de se donner à elle, de la suivre docilement à travers les monts et les vallées. Tout ce besoin peureux d'immobilité ressemble à la résignation inconsciente de la bête que la servitude abrutit et qui tend le cou vers le harnais. À toute propriété, il y a des bornes. À toute puissance, il y a des lois. Or, le cheminot possède toute la vaste terre dont les limites sont l'horizon irréel et son empire est intangible, car il le gouverne et en jouit en esprit. » Thank you. Une autre thématique peu souvent abordée est la perspective de la femme quant à la marche. Le premier de deux textes à ce propos est de Rebecca Solnit, une écrivaine, activiste et pacifiste américaine. La présence des femmes dans les milieux publics, dit-elle, demeure souvent problématique. Mais aujourd'hui comme hier, la relégation qu'elles subissent est d'autant économique que physique. Et je la cite. Si les femmes se joignent avec enthousiasme au pèlerinage, aux randonnées organisées, aux défilés, aux processions et aux révolutions, c'est à la fois parce que leur présence au sein de ces groupes ne risque en principe pas de passer pour de la provocation sexuelle, et parce que les compagnons qu'elles y trouvent sont les plus sûrs garants de leur sécurité. Dans les révolutions, l'importance prise par le débat public relègue provisoirement au second plan les affaires privées, ce qui explique la liberté que les femmes y trouvent. Mais marcher à son pas est aussi un acte chargé d'une fantastique résonance spirituelle, culturelle et politique. Même aux époques où les femmes purent se promener librement le jour, la nuit, il leur resta largement interdite. Si la possibilité... Non. Même aux époques où les femmes purent se promener librement le jour, la nuit leur resta largement interdite. Si la possibilité d'aller à pied sert donc des activités culturelles de premier plan et encourage un mode d'être au monde essentiel, alors oui, celles qui ont été empêchées d'aller aussi loin que leurs pieds les portaient furent privées, non seulement d'un exercice ou d'une détente agréable, mais d'une part importante de leur humanité. De Jane Austen à Sylvia Plath, les femmes ont su trouver d'autres thèmes plus circonscrits pour exercer leur art. Certaines se sont délibérément aventurées dans le vaste monde, mais le nombre de celles qui furent réduites au silence est infiniment supérieur. Il est dommage qu'une chambre à soi passe trop souvent pour un plaidoyer visant simplement à obtenir que les femmes disposent chez elles d'un bureau, car Virginia Woolf y indique clairement que les ressources économiques, l'éducation et la participation à la vie publique sont aussi indispensables à l'affirmation du talent. Le deuxième texte portant sur la femme et la marche est de l'écrivaine canadienne bien connue Nancy Houston. Elle le dit d'entrée de jeu, « Longtemps, les femmes n'ont pu marcher seules. Et si elles en savourent aujourd'hui le plaisir, elles ne le font pas toujours sans risque. » Houston invite les femmes à la vigilance, car si la marche est pour elles le signe d'une liberté et d'indépendance conquise de haute lutte, c'est souvent à leur corps défendant. Encore une fois, je cite. J'ai découvert à 15 ans une vraie libération par la marche. Jusque-là, j'avais eu une enfance très citadine. L'Ouest du Canada n'est pas qu'une grande réserve naturelle, comme on se le représente souvent ici en France. Ado, j'avais la passion de ces petites choses féminines, faire les magasins, acheter du maquillage. La nature ne m'intéressait pas du tout. J'en avais plutôt peur. Ensuite, nous avons déménagé dans le New Hampshire aux États-Unis. Et là, j'ai découvert le plaisir de marcher en pensant, ou de penser en marchant, comme une révélation intime. Nous habitions une maison à 2 ou 3 kilomètres de l'école où mon père enseignait et où j'étais élève. J'y allais à pied en traversant une forêt sublime par des chemins et de petites routes. Je taillais des bâtons et je marchais. Je marchais seul, en parlant à haute voix, parfois en chantant, parfois en récitant plutôt les tirades des pièces que j'apprenais. J'éprouvais une sensation de liberté inouïe. C'est peut-être la période la plus heureuse de ma vie. Ensuite, je suis redevenue très citadine entre New York et Paris. Mais j'ai vécu aussi dans le Berry, une région que j'affectionne, avec un homme qui marchait. Nous partions facilement pour des balades de 10 ou 15 kilomètres. Marcher avec quelqu'un, c'est trouver un rythme de discussion presque idéal. Les silences ne sont pas gênants. Le monde extérieur qui évolue sous nos yeux nous nourrit tandis que l'on parle, que l'on écoute, que des pensées se forment et se partagent. Parler ensemble en marchant, c'est tellement plus libre qu'assis face à face, les yeux dans les yeux autour d'un café. On fait autre chose et le corps est heureux. Marcher seul est un autre plaisir. C'est éprouver la liberté du corps et l'échauffement de la pensée. Je n'aime rien tant que pouvoir quitter ma maison à n'importe quel moment pour marcher dans Paris. Je le fais souvent lorsque j'ai besoin de débloquer un roman, de penser à mes personnages. L'image de Virginia Woolf m'accompagne. Elle aussi, lorsqu'ils habitaient la campagne avec son mari, partait seule pour de longues promenades. Je la vois, sa silhouette penchée, un peu raide, marcher en retournant dans sa tête les phrases de son roman. Qu'est-ce qui pourtant rend problématique la marche féminine? Entre autres, parce que dans toutes les sociétés, plus on est riche, plus les femmes portent des chaussures anti-marche. Allez aujourd'hui dans les beaux quartiers un peu clinquants, voyez les robes entravées et surtout ces chaussures de mannequin avec lesquelles on ne peut faire que de petits pas, qui sont insupportables plus de 100 mètres, qui cassent les pieds, détruisent les muscles des jambes et les vertèbres. Combien de femmes, et j'en suis, sont coupables d'avoir acheté des chaussures qui les torturent? Un vrai carcan volontaire. Mais il est évident qu'une jeune femme seule dans une ville ne marche pas comme un jeune homme. J'en ai bavé tout au long de ma jeunesse, et aujourd'hui ma fille ou ses amis continuent d'être constamment harcelées par les hommes, de ne jamais pouvoir marcher tranquille dans la rue. Aujourd'hui, je trouve que les revendications féministes sur ce sujet sont finalement naïves. Seule dans la nuit, dans les rues d'une grande ville, ou même sur des chemins de campagne, il ne sera jamais possible pour une femme d'être parfaitement tranquille. chers amis, c'est ainsi que se termine notre petite balade aujourd'hui à la saveur des trois thèmes annoncés en début d'émission. Pour terminer notre tour d'horizon de la marche vécue par de grands marcheurs et marcheuses, je reprends ce texte de Jean-Christophe Ruffin, « Le virus de Saint-Jacques ». Le virus de Saint-Jacques n'est pas lié à l'indigestion de fruits de mer avalés. C'est le nom que donne Ruffin, ce routard de Compostelle, à cette étrange fièvre qui le saisit lorsqu'il emprunte le chemin jacquaire. Par hasard, croyait-il. Écoutons Ruffin. Pourquoi? C'est évidemment la question que se posent les autres, même quand ils ne vous la posent pas. Chaque fois qu'au retour vous prononcez la phrase « Je suis allé à Compostelle à pied », vous noterez la même expression dans les regards. Elle traduit d'abord l'étonnement. Qu'est-ce qu'il est allé chercher là-bas? Puis, ça a une certaine manière de vous dévisager à la dérobée, la méfiance. Au lieu d'exprimer son embarras, la meilleure solution est encore de livrer quelques indices, au besoin en les inventant, pour égarer la curiosité de celui qui vous interroge et le mener sur de fausses pistes. « Il y avait des coquilles Saint-Jacques sur les monuments dans la ville de mon enfance. » C'est la piste freudienne. « J'ai toujours été fasciné par les grands pèlerinages du monde. » La piste écuménique. « J'aime le Moyen-Âge. » C'est la piste historique. « Je voulais marcher vers le soleil couchant jusqu'à rencontrer la mer. » C'est la piste mystique. « J'avais besoin de réfléchir. » Cette dernière réponse est la plus attendue, au point d'être considérée généralement comme la bonne réponse. Elle ne va pas pourtant de soi. N'est-il pas possible et même préférable pour réfléchir de rester à la maison, de traîner au lit ou dans un fauteuil, ou, à la rigueur, de faire quelques pas sur un itinéraire proche et familier? Comment expliquer à ceux qui ne l'ont pas vécu que le chemin a pour effet, sinon pour vertu, de faire oublier les raisons qui ont amené à s'y engager? À la confusion et à la multitude des pensées qui ont poussé à prendre la route, il subsiste la simple évidence de la marche. On est parti, voilà tout. C'est de cette manière qu'il règle le problème du pourquoi, par l'oubli. On ne sait plus ce qu'il y avait avant. Comme ces découvertes qui détruisent tout ce qui les a précédées. Le pèlerinage de Compostelle, tyrannique, totalitaire, fait disparaître les réflexions qui ont conduit à l'entreprendre. On aperçoit déjà ce qui fait la nature profonde du chemin. Il n'est pas débonnaire comme le croient ceux qui ne sont pas livrés à lui. Il est une force. Il s'impose. Il vous saisit, vous violente et vous façonne. Il ne vous donne pas la parole, mais vous fait taire. Thank you. La plupart des pèlerins sont d'ailleurs convaincus qu'ils n'ont rien décidé par eux-mêmes, mais que les choses se sont imposées à eux. Ils n'ont pas pris le chemin, c'est le chemin qui les a pris. De tels propos, j'en ai conscience, rendent suspects aux yeux de ceux qui n'ont pas connu cette expérience. Moi-même, avant de partir, j'aurais haussé les épaules en entendant ce genre de déclaration. Elles sentent la secte à plein nez. Elles révoltent la raison. Pourquoi? C'est évidemment la question que se posent les autres, mais quand ils ne vous la posent pas. Pourtant, très vite, j'ai constaté leur justesse. Chaque fois qu'il s'agit de prendre une décision, j'ai senti le chemin agir puissamment en moi et me convaincre, pour ne pas dire me vaincre. À l'origine, j'avais simplement décidé de faire une grande marche solitaire. J'y voyais un défi sportif, un moyen de perdre quelques kilos, une manière de préparer la saison de montagne, une purge intellectuelle avant d'entreprendre la rédaction de nouveaux livres, le retour à une nécessaire humilité après une période marquée par des fonctions officielles et les honneurs. Rien de tout cela en particulier, mais tout à la fois. Je n'avais pas envisagé précisément de parcourir le chemin de Saint-Jacques. Il n'était qu'une des très nombreuses options que j'envisageais, du moins je le croyais. J'étais encore à la phase où l'on rêve sur des livres, des récits, où l'on regarde des photos et des sites Internet. Je me croyais libre de décider, souverain. La suite devait me montrer que j'avais tort. Peu à peu, mon choix s'est restreint et les options se sont resserrées. Tiens, autour des itinéraires vers Saint-Jacques. Finalement, je n'ai retenu que deux possibilités, la haute route pyrénéenne et le chemin de Compostelle par le nord. Je choisis le chemin de Compostelle. À la vérité, quand j'y pense, je ne faisais que céder à une attraction mystérieuse et de plus en plus forte. Je pouvais bien rationaliser, il n'avait jamais été sérieusement question que j'entreprenne autre chose. La variété des projets n'était qu'un leurre, un moyen commode pour masquer cette évidence désagréable. Je n'avais en réalité pas eu le choix. Le virus de Saint-Jacques m'avait profondément infecté. J'ignore par qui ou par quoi s'est opérée la contagion, mais après une phase d'incubation silencieuse, la maladie avait éclaté et j'en avais tous les symptômes. Chers amis, c'est ainsi que se termine cet épisode de Marcher vers le bien-être. Nous espérons qu'il vous a plu. Je vous rappelle que Marcher vers le bien-être vous est présenté les mardis à 22h et en reprise les mercredis à 11h, les vendredis à minuit et les samedis à 10h. Vous pouvez également écouter l'émission en direct sur le site de Radio-VM ou grâce aux émissions qui y sont archivées. Aussi, sur le site jemarchepartout.com, où vous trouverez descriptifs et références pour chaque épisode. Merci encore une fois à Marie-Lyne Étier et Michel Desgagné de Santé à pied de nous avoir mis sur la piste de la revue Philosophie Magazine dédiée à la marche. Et bien sûr, merci à notre fidèle, joyeux et inspirant technicien Xavier Gauvin. Je vous laisse sur cette pensée de Pascal Bruckner. Les escapades du marcheur sont pour lui ce moment béni où le corps peut vivre autrement que par les yeux. Sur ce, je vous souhaite bonne route et à la prochaine.